Bonjour à tous et surtout à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. C'est toujours un plaisir pour moi de venir vous voir avec ma sœur, fidèle pour me conduire jusqu'à vous, en attendant que je puisse conduire moi-même. Mais si vous voulez continuer à la voir, vous devriez l'encourager pour qu'elle continue à jouer de la flûte. Ce matin, je vous propose de commencer avec une lecture dans le livre de Genèse, au chapitre 16, qui revient sur la naissance d'Ismaël, le fils que Abraham a eu avec Agar. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham : « Voici, l'Éternel m'a rendue stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. » J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardée avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ? » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. » Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Atta El Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits de l'Achai Roy. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Comment en sommes-nous arrivés dans cette situation qui est pour le moins compliquée ? Si l'on repart dans les chapitres qui ont précédé ce texte, on a déjà appris, à partir de Genèse 11, Genèse 12, un certain nombre d'éléments sur Abraham et Sarai, qui ne sont encore pas Abraham et Sarah. Nous savons que jusqu'à maintenant, Abraham a vécu des choses fortes avec Dieu. Dieu l'a appelé à partir et Abraham est parti. Dieu lui a promis qu'une grande nation serait issue de lui. Il lui a promis aussi de le bénir de biens matériels. Et Dieu, lorsque il y a cet épisode avec Agar, a déjà plusieurs fois renouvelé ses promesses envers Abraham. Mais on sait aussi que Abraham n'est pas un super-héros. Il est capable de choses positives, comme on l'a vu, répondre à l'appel de Dieu, partir. Il a aussi laissé son neveu Lot choisir en premier le territoire sur lequel il souhaitait s'installer lorsqu'ils se sont séparés, alors que Abraham, en tant qu'aîné, aurait dû avoir ce choix lui-même. En Genèse 15, il est précisé que la confiance qu'Abraham a eue en Dieu lui a été imputée à justice. Mais pourtant, on a vu aussi qu'Abraham reste un homme avec sa part de faiblesse. Lorsque son voyage l'a conduit en Égypte, il a fait passer Sarai pour sa sœur parce qu'elle était très belle et Abraham avait peur d'être tué pour qu'on puisse ensuite épouser sa femme Sarai, ce qui les a mis dans une situation très délicate avec le pharaon que vous pouvez retrouver en Genèse 12. On a aussi déjà appris dans les chapitres précédents que Sarai est stérile et que donc elle et Abraham savent bien qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, ce qui est particulièrement difficile à leur époque puisque c'était quelque peu vu comme une malédiction, peut-être une punition pour un péché. Parce que les enfants étaient vraiment, à l'époque, une richesse particulière et le signe que Dieu bénissait le couple. Lorsque Sarai va proposer à Abraham d'aller avec Agar, ça fait quand même 10 ans qu'Abraham attend de voir les promesses de Dieu se réaliser. Donc si vous réfléchissez, où est-ce que vous étiez il y a 10 ans ? Que vous réfléchissez ensuite à tout le parcours que vous avez fait depuis, vous vous rendez compte que ça fait quand même un certain temps qu'Abraham patiente. On peut être choqué par la proposition de Sarai qui lui dit « Va donc avec ma servante », mais pourtant il faut savoir qu'à l'époque c'était quelque chose de très commun. Puisqu'on a retrouvé des contrats de mariage, des codes civils de l'époque, qui attestent qu'effectivement c'était une pratique qui avait lieu. Et par exemple, on pouvait stipuler dans un contrat de mariage que si la femme était stérile, elle devait donner à son mari une esclave pour qu'il puisse avoir des enfants. La femme légitime avait ensuite tous les droits sur les enfants qui étaient issus de cet arrangement. La situation dans laquelle Sarai va se retrouver avec Agar, être méprisée puisque la servante est enceinte à la place de sa maîtresse, ça avait aussi été prévu et même si ça nous paraît dur comme attitude, Sarai était dans son droit quand elle traitait durement Agar. Donc, d'un point de vue culturel, tout semble normal. Mais les choses vont rapidement déraper, comme on a pu s'en rendre compte pendant notre lecture. Agar méprise Sarai, Sarai maltraite Agar, et Agar s'enfuit. Je pense que Abraham et Sarai n'avaient sûrement pas pensé que les choses se passeraient ainsi. Alors là, c'est peut-être mon interprétation personnelle, mais je pense vraiment qu'il pensait bien faire en aidant le plan de Dieu à se réaliser. Ils se sont peut-être dit que c'était ce que Dieu attendait d'eux et qu'ils devaient prendre les choses en main pour que les promesses se réalisent. Malheureusement, le dicton qui me vient à l'esprit pour cette situation, c'est que la fin ne justifie pas les moyens. Et c'est ce que Sarai et Abraham vont réaliser quand la situation va devenir extrêmement épineuse, puisque finalement la situation ne collait pas à ce que Dieu avait prévu pour eux. Il y a un commentaire très intéressant qui s'appelle « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob » qui a été écrit par Watchman Nee, un Chinois qui a passé les 20 dernières années de sa vie en prison à cause de sa foi, qui parle dans ce commentaire du principe d'Ismaël en opposition au principe de la promesse. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Watchman Nee met en avant qu'il ne suffit pas d'agir dans un but qui est bien pour ce que nous fassions pour atteindre ce but soit bien. Il faut agir par Dieu et non par nous-mêmes pour que la façon qu'on a de réaliser ce but soit une bonne façon et que l'on fasse bien. Ce qu'on peut résumer par « la fin ne justifie pas les moyens ». En effet, Dieu voulait que Abraham ait un fils, donc le but d'Abraham et de Sarai était bon. Ils avaient le même but que celui qu'avait Dieu. Mais Dieu ne voulait pas qu'il passe par Agar pour avoir un fils. Il voulait que le moyen soit miraculeux et qu'on voit pleinement Dieu agir. Puisque, comme je vous l'ai dit, à l'époque, c'était très commun d'avoir un enfant en passant par sa servante. Donc, ce qu'ont fait Abraham et Sarai était mal, même s'ils étaient bien intentionnés et qu'ils avaient le même but que celui de Dieu. Ésaïe 55 nous dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et que nos voies ne sont pas ses voies non plus. Et Hébreux ajoute au chapitre 4 que celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres. Autrement dit, reposons-nous, faisons-lui confiance et cessons de faire confiance tout en continuant quand même à agir de notre côté parce que, bon, voilà, on peut pas trop s'en empêcher. En fait, quand j'ai lu ce commentaire, je me suis dit, je sais finalement comment vivent les gens qui n'ont pas la foi. Vous savez, vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, ou peut-être même vous l'avez déjà dit, et moi je l'ai déjà dit. Ah, je ne sais pas comment font les gens qui n'ont pas la foi pour vivre dans un monde aussi difficile. Et en lisant ce commentaire, je me suis dit, mais si, je sais, ils font comme moi. Ils se débrouillent tout seuls. Alors la différence, c'est qu'en général, au bout d'un moment, plus ou moins long, je me rends compte que je pédale dans un mur et je descends du vélo. Alors c'est vrai, si on ne sait pas qu'à un moment il faut descendre du vélo, ça doit être particulièrement dur. Finalement, lorsque nous décidons d'agir par nous-mêmes, nous fonctionnons sur ce principe d'Ismaël, qui est toujours selon ce commentaire, la représentation de ce qui est né prématurément. Ismaël, c'est le fruit de l'impatience d'Abraham et de Sarai. Dans sa lettre aux Galates, l'apôtre Paul dit qu'il a été enfanté selon la chair par une femme esclave. Alors qu'Isaac est issu de la promesse, Il est né d'une femme libre. En fait, lorsqu'Isaac est né, Abraham avait 100 ans et lui et sa femme étaient si âgés qu'Abraham considérait son corps et le sein maternel de Sarai comme mort. C'est rapporté par Paul en Romains 4. C'est-à-dire qu'ils étaient si vieux que physiquement c'était impossible qu'ils aient un enfant, et cet enfant représentait donc pleinement l'exaucement de la promesse de Dieu, la manifestation de sa puissance et de sa gloire, parce que seul Dieu pouvait faire que cet enfant vienne au monde. Il y a un autre point, qui sera mon dernier point, qui m'a vraiment frappée lorsque j'ai relu ce texte, c'est l'attitude vraiment magnifique que Dieu a envers chacun dans ce récit. Déjà, si l'on revient à Agar, Dieu est finalement le seul à la traiter comme une personne, et non comme un objet dont on peut se servir à sa guise selon ses besoins. Agar, je veux un enfant, va avec mon mari. Et Agar va avec le mari. Lorsque Dieu lui dit « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ?» Qui pense vraiment que Dieu ne connaissait pas la réponse ? Cela peut nous rappeler dans la Genèse, lorsque Dieu cherche Adam dans le jardin d'Éden et qu'il lui demande « Adam, où es-tu ?» Évidemment, Dieu savait très bien où était Adam et pourquoi il se cachait. Mais Dieu appelle Agar par son nom et il lui donne la parole. On peut remarquer qu'il ne lui donne pas raison sur son comportement. Il lui dit immédiatement « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Et par rapport donc aux coutumes de l'époque, Agar effectivement n'avait pas le droit de s'enfuir, même si elle était maltraitée par sa maîtresse. Donc Dieu ne la laisse pas continuer dans cette voie, mais il va à sa rencontre, et bien qu'Ismaël ne soit pas dans son plan initial, il va le bénir et il va bénir Agar en lui disant « Je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Et puis Ismaël, qui signifie « Dieu entend », le nom que Dieu a demandé à Agar de donner à son fils, montre bien que Dieu a tenu compte de la situation dans laquelle Agar se trouvait, qu'il a entendu sa souffrance et qu'il est venu à sa rencontre. On peut remarquer que tout ne sera pas facile, puisque Dieu lui dit qu'Ismaël sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, la main de tous sera contre lui, il habitera en face de tous ses frères. Donc effectivement, dans cette situation qui n'est pas parfaite, Dieu ne rend pas les choses parfaites. Dieu les accompagne, Dieu les bénit, Dieu prend soin d'eux, mais il reste à assumer les conséquences de l'erreur qui a été faite. D'ailleurs, vous pouvez aller au chapitre 21 de la Genèse pour vous rendre compte que les choses vont continuer à se dégrader et que finalement, Agar et Ismaël devront quitter Sarai et Abraham parce que la cohabitation va devenir impossible. Mais pourtant, Abraham et Sarai, qui sont quand même à l'initiative de, j'ai envie de dire, cette boulette, vont être bénis aussi, et Dieu ne leur retire pas la promesse. Dieu ne va pas leur dire, vous avez voulu vous débrouiller tout seul, vous allez assumer tout seul jusqu'au bout, et vous n'aurez pas ce que je vous avais promis. Dieu n'efface pas les erreurs, il n'annule pas les difficultés engendrées par la faute de Sarah et Abraham, mais il continue de prendre soin de chacun, et il reste fidèle en toutes choses et fidèle à sa promesse. Et je voudrais terminer en citant le psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité.